Bonjour, c'est une vie, une œuvre. Dans Le Monde du 27 août 2014, on peut lire « Marguerite Duras était une voix qui conjuguait à tous les temps, qui déclinait tous les modes, littérature bien sûr, mais aussi théâtre, journalisme, cinéma, voire cuisine, que cette reine de la soupe de poireaux considérait comme un art. Marguerite Duras parla de mille façons, mais toujours d'une voix doucement minérale, en suspens, toujours plus loin vers la limite du verbe, de la perception. Une vie à traverser les frontières des genres, à faire fi de toutes les disciplines, à les rendre poreuses. Aujourd'hui, Maëlys Bessery et Anna Smuk signent Une vie, une œuvre, Marguerite Duras.
Les gens qui attendent de l'aide, par exemple, pour écrire, vous savez, qui attendent d'avoir du temps, qui attendent d'avoir du calme, d'une maison, calme. C'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est des prétextes. Ils n'ont qu'à écrire partout. On écrit partout. C'est pas des écrivains, je veux dire, c'est ça. J'avais pas de lieu pour écrire. Je transportais mon manuscrit de lieu en lieu. On ne me la faisait pas, cette histoire-là, voyez-vous. C'est dans ce sens-là que je vous le dis. Je ne me racontais pas d'histoire là-dessus. Et je ne me raconte pas d'histoire. Je sais que quand on n'écrit pas, eh bien, on n'écrit pas.
โอ้ดอกบัวทองบานในหนองน้ำใสเกิดบัวใบในตมเป็นสนมตรมยาแต่เป็นดอกภูผาปริศนาหนาดูยามเมื่อเสาตรู่หมู่แมงแสวงภัย
Une vie, une œuvre, Marguerite Duras, La vie, matériaux d'écriture, Maëlys Bessery.Anna Smuk.
Elle était extrêmement discrète et absolument pas théâtrale sur le fait de se retirer pour écrire. C'était totalement clandestin. Elle écrivait dans sa chambre comme ça. Elle ne parlait évidemment jamais de ce qu'elle faisait. Non, non, voilà. Alors peut-être qu'avec d'autres gens, elle en parlait, mais j'en doute beaucoup.
C'est ça. Ah oui?Je me souviens. Elle se tient au bord des fleuves. Elle vient de Birmanie.
C'est vrai que c'est certainement par l'écriture qu'elle se définit le plus, enfin comme être écrivant avant d'être sentant, vivant, et même la relation amoureuse, elle est d'abord vécue à travers le filtre de l'écriture.
Elle n'est pas indienne. Elle vient de Savanakhet, née là-bas.Un jour, il y a 10 ans qu'elle marche. Un jour, devant elle le Gange.
Elle avait une générosité extraordinaire, même si on parle de son avarice extrême aussi. Mais elle avait surtout une générosité humaine, profonde. Il faut lire pour ça le coupeur d'eau. Il faut lire ces nouvelles-là ou les fleurs de l'Algérien pour comprendre combien... Ou Madame Dodin dans sa nouvelle Madame Dodin. Qui était la concierge de son immeuble au 5 rue Saint-Benoît. Et elle consacre une petite nouvelle, comme ça, de, je sais pas, une vingtaine de pages à Madame Dodin. Mais c'est un petit bijou.
Savanakhet, Laos, oui. 17 ans. Elle est enceinte.
Elle avait à la fois ce côté dans la langue très sophistiqué. Elle a vraiment travaillé la langue française d'une manière magnifique. Mais dans son fond émotionnel, dans son attention à la société, elle était très humainement impliquée, si vous voulez. Elle avait une compassion.
Il l'avait suivie aux Indes, oui. Pour elle, il avait tout quitté. En une nuit. La nuit du bal. Michael Richardson était fiancé à une jeune fille de Estala, Lola Valérie Stein. Le mariage devait avoir lieu à l'automne. Puis il y a eu ce bal de Estala. Elle était arrivée tard à ce bal, au milieu de la nuit.Habillée de noir. Que d'amour ce bal, que de désir.
Elle la raconte d'une façon parfois extrêmement simple, comme si on n'allait pas s'emmerder avec des histoires compliquées. elle raconte, c'est Anne-Marie Stretter, qui est la femme de l'ambassadeur de France à Calcutta. Il n'y a pas d'ambassade de France à Calcutta, c'est pas grave. Mais... Donc, avant, ils étaient à Vinlongue. À Vinlongue, elle a eu un amant qui s'est tué pour elle. Elle dit, je ne savais pas... C'est ça, chose formidable. Je ne savais pas qu'on pouvait se tuer d'amour, dit-elle. Comme si c'était en effet quelque chose comme l'étape de multiplication. On savait, ben non, on ne savait pas que 8 fois 3, ça faisait 24. En fait, ce qu'elle ne cesse de faire, c'est de faire des équivalences entre des choses qui n'ont strictement rien à voir. Il y a beaucoup, beaucoup d'équivalences entre vraiment des choses qui n'ont strictement rien à voir, et elle les énonce parfois. Par exemple, elle énonce que une montagne de musique et une montagne de ciment, il n'y a strictement aucune différence.
Mais ça, c'est le langage, en fait. Les équivalences, c'est le langage qui les relie.
C'est le langage qui les relie, mais en même temps, je crois bien que dans son œuvre, il n'y a pas de métaphore. Elle ne savait pas ce que c'était qu'une métaphore. Elle savait les équivalences, mais les métaphores, par exemple, comme un lapin pris dans les phares d'une voiture.
Non, c'est le lapin dans les phares.
C'est le lapin dans les phares. Exactement. Ça n'existe pas comme.
J'écoute India Song. Je suis venu aux Indes à cause d'India Song.
Cet homme, ce vice-consul, n'oublions pas de dire qu'il est vice-consul de Lahore en disgrâce à Calcutta. Pas
ça, ça vous amuse beaucoup.
Non, mais c'est inouï.
Ça fait partie de son titre, ben oui, en quelque sorte.
Ben oui. Et donc, dont elle dit qu'il est vierge et qu'il vient dans ce bal pour entendre la musique d'India Song et dire à Anne-Marie Stretter, cet air me donne envie d'aimer.
Cet air me donne envie d'aimer.
Saint-Germain-des-Prés.
Je n'ai jamais aimé.
Saint-Germain-des-Prés.
Je n'avais encore jamais aimé.
Je suis Sophie Bogart, donc je suis éditrice et je suis aussi spécialiste de Marguerite Duras.
Ici, on est rue Saint-Benoît, dans un hôtel tout près de là où vivait Marguerite Duras.
Oui, effectivement, c'est vraiment juste à côté du 5 rue Saint-Benoît où elle a passé l'essentiel de son existence, puisqu'elle a vécu entre sa maison de Naufle qui lui appartenait et puis cet appartement qui a aussi une mémoire collective, puisque au moment de la guerre notamment, c'était un lieu où se retrouvait ce qu'on a appelé le groupe de la rue Saint-Benoît, donc avec Edgar Morin, avec Georges Semprin, avec bien sûr ses deux compagnons, Robert Antelme et Dionys Mascolo. Voilà, c'était aussi un appartement où Duras faisait la cuisine, recevait, où apparemment on a beaucoup dansé et beaucoup parlé.
Qu'est-ce qu'on peut dire justement de cette histoire d'amour aussi avec Robert Antelme, qui a croisé cette histoire de guerre? On connaît beaucoup la Duras qui a raconté l'Indochine, qui a raconté l'Asie en général, qui a raconté les colonies, Sophie Bogart, mais il y a eu aussi la Duras dans sa vie amoureuse un peu particulière.
Oui, alors effectivement, c'est une histoire un peu particulière, surtout pour l'époque, sans doute, puisque donc Duras épouse Robert Antelme. Ils se rencontrent quand ils sont étudiants en droit tous les deux, et donc elle l'épouse très jeune, et ils vivent ensemble quelques années. Ils ont un enfant, d'ailleurs, qui est mort-né, en fait, enfin qui est mort à la naissance en 1942.
À cause de la guerre, elle dira.
Probablement à cause de la guerre, du manque de soins liés à la guerre. On ne sait pas exactement de quoi est mort cet enfant. Et ils ont été très liés jusqu'au moment où chacun a commencé à vivre des histoires amoureuses un petit peu chacun de son côté. Mais ce qui ne retire sans doute rien à la profondeur des sentiments qu'ils éprouvaient l'un pour l'autre, qui étaient peut-être d'ordre presque filial, enfin ou sororal, je ne sais pas, mais en tout cas qui ont perduré toute leur existence et jusqu'à la fin de la vie d'Antelme, puisqu'il est mort au début des années 80, je crois, en tout cas très très longtemps avant Duras. Elle en parlait encore en disant que c'était l'amour de sa vie et que ça avait été vraiment quelqu'un d'extrêmement important.
Cet appartement est lié à l'histoire avec Robert Antelme, son mari. C'est aussi l'appartement qui a été celui de l'attente de son retour. Si on parle des sources, il y a la guerre comme source importante biographique.
Je pense que chez Duras, vraiment, il y a deux sources essentielles, c'est l'enfance et la guerre. Et d'ailleurs, elle fait le parallèle très souvent entre les deux, en termes de matière première comme ça. Pour elle, elle a vécu visiblement ces deux périodes qui n'ont rien à voir, évidemment, puisqu'on sait qu'elle a vécu son enfance en Indochine, dans un contexte qui n'était pas du tout un contexte de guerre. Donc, c'est pas un parallèle littéral, mais c'est pour elle le point commun majeur entre ces deux périodes fondatrices de son être et de son écriture, c'est ce qu'elle appelait le subissement. C'est-à-dire, pour elle, c'est deux périodes de soumission. On est obligé de subir son état, comme elle disait. Voilà, on est obligé d'attendre, justement, comme elle attendait Anthelme. Quand on est enfant, on est obligé de se contraindre et de se plier aux injonctions des adultes. Et du coup, ces deux périodes qu'elle a vécues, sans doute dans un état de très grande révolte intérieure, mais tue. Et du coup, cette révolte intérieure, elle a trouvé vraiment un exutoire dans l'écriture. Donc c'est deux périodes, en fait, qui sont propices à l'écriture, parce que ça fait un peu cocotte-minute comme ça, et qu'il y a une espèce de rage très contenue jusqu'au moment où elle trouve une échappée dans l'écriture.
Quand on écrit, il y a comme un instinct qui joue. L'écrit est déjà là, dans la nuit. Écrire serait à l'extérieur de soi, dans une confusion des temps, entre écrire et avoir écrit, entre avoir écrit et devoir écrire encore, entre savoir et ignorer ce qu'il en est, partir du sens plein, en être submergé et arriver jusqu'au non-sens. L'image du bloc noir au milieu du monde n'est pas hasardeuse. Il s'agit du déchiffrement de ce qui est déjà là et qui a déjà été fait par vous dans le sommeil de votre vie, dans son ressassement organique, à votre insu. Ce n'est pas transféré, il ne s'agit pas de ça. L'instinct dont je parle, ce serait de lire déjà avant l'écriture ce qui est encore illisible pour les autres. Je peux le dire autrement, je peux dire, ce serait lire sa propre écriture, ce premier état de votre écrit encore indéchiffrable pour les autres. Ça serait régresser, condescendre vers l'écriture des autres afin que le livre soit lisible par eux. On peut le dire d'une autre façon, employer d'autres mots, ça reviendrait au même. On a devant soi une masse entre vie et mort qui est dans votre dépendance. J'ai eu souvent ce sentiment de confrontation entre ce qui était déjà là et ce qui allait être à la place de ça. Moi, au milieu, j'arrache, je transporte la masse qui était là, je la casse. C'est presque une question musculaire, d'adresse. Il faut aller plus vite que cette part de vous-même qui n'écrit pas, qui est toujours dans l'altitude de la pensée, toujours dans la menace de s'évanouir, de se dissoudre dans les limbes du récit à venir, qui ne descendra jamais au niveau de l'écriture, qui refuse les corvées.
Avant, c'était une imprimerie.
Cet hôtel ?
Ah oui. Je me souviens très bien de la construction, de la transformation de l'imprimerie en hôtel. Elle en parle d'ailleurs.
Marguerite Duras ?
Oui, dans La vie matérielle. Elle dit il y a un hôtel qui est en train de se construire à côté de chez moi. La raison pour laquelle je parle d'elle, c'est que je l'ai connue bien, et surtout pendant très longtemps. C'est-à-dire que je l'ai connue, je sais, en 1966... Comment je l'ai connu? Je l'ai connu parce que j'étais un copain de son fils. On partait en vacances ensemble, donc on allait, je sais pas, à Sète ou à Utrecht. Quand j'ai commencé à travailler avec elle, j'avais l'impression que j'étais encore très jeune, alors que ni lui ni moi ne l'étions plus tellement, finalement. On était un peu comme des attardés qui allaient. Et donc, on allait en vacances comme des attardés à l'arrière de la voiture. Elle conduisait la voiture et en même temps, c'était des bonnes vacances, voilà. Et après, avec son fils qui s'appelle Jean Mascolo qui a un surnom qui s'appelle Outa, donc tout le monde l'a toujours appelé Outa. Avec Outa, on a décidé de faire un film. C'est lui qui m'a dit, on va faire un film sur elle parce qu'elle va tourner un film qui s'appelle Agatha. Et donc, on va la filmer en train de filmer. Et ça a fait un film qui s'appelle Duras Film. C'était en, je sais pas vous dire, janvier ou février 81, donc très peu de temps après qu'elle ait rencontré Yann Andrea. Et après donc, j'ai travaillé avec elle. Ça s'est fait comme ça. Après, on a fait d'autres films avec son fils. Et puis après, un jour, j'avais quelque chose à trouver au Roche Noire.
C'est un des lieux du Racien,
c'est
des lieux où elle a
bien connu du Racien. Il y a Rue Saint-Benoît, il y a Nauf-le-Château, et puis il y a Trouville. Et puis, sinon, il y a l'Indochine. Mais c'est autre chose. Et puis, il y a l'Inde. Et puis, après, il y a plein d'endroits, mais des endroits qui sont plutôt des endroits de livres.
Des endroits dans lesquels elle n'est même pas allée.
Et des endroits dans lesquels elle, vous savez qu'elle n'est jamais allée en Inde, oui, en effet. Elle n'est jamais allée à Calcutta.
Eu égard à ce qu'avait vécu ma mère, elle était institutrice, toute sa vie, institutrice d'école indigène. Ce qui fait que nous avons vécu dans la brousse presque tout le temps, toute l'enfance. C'était très difficile quand même, elle avait 3 enfants, c'était très peu d'argent ce qu'elle gagnait. Et elle a voulu devenir riche pour nous. À ce moment-là, l'administration française lotissait la partie sud du Cambodge, entre le Siam et la chaîne de l'éléphant. Et elle a acheté une terre pour faire du riz et elle a porté au cadastre 20 ans d'économie. À ces gens qui l'ont vu venir. Alors ils lui ont donné très facilement, enfin, avec le sourire, une concession complètement pourrie que la mère envahissait.
On écrivait beaucoup de choses fausses sur elle ou un peu incompréhensibles. Je me dis, dans le fond, elle a besoin d'une bonne biographie. Je m'étais imposé comme discipline de retrouver toute la chronologie, parce que ce que je lisais, c'était toujours brouillé, et quand on confrontait les dates, on s'apercevait que toutes les argumentations s'effondraient.
Ce qui était brouillé, c'était tout. C'était elle aussi ce qu'elle disait, Jean Vallier.
Ah oui, bien sûr. Elle a volontairement ou involontairement mythifié, chamboulé les dates de sa vie, dit des choses inexactes ou exactes. Tout ça, c'est un travail de gestation d'une œuvre. Mais si vous êtes biographe, vous avez certaines obligations, ou alors c'est pas la peine. Alors, j'ai fait une enquête. Oui, on est obligé dans le cas d'écrivains comme Marguerite Duras, puisqu'elle a brouillé beaucoup les pistes. Mais c'était pas pour faire acte d'accusation, si vous voulez. C'était pour d'abord retrouver, parce qu'elle était très sensible à ça. Elle a écrit, retrouver le sens de la vie, le courant des événements, l'atmosphère, y compris le climat. Donc, c'était passionnant parce qu'elle a passé son enfance en Indochine avec des épisodes tout de même assez marquants en France quand elle était encore très jeune. Et puis, elle a traversé la guerre. À la fin des années 30, elle était étudiante à la faculté de droit. Elle était diplômée de droit. Elle gagnait sa vie. Et puis, tout à coup, avec Vichy, elle n'a plus pu travailler puisque les femmes, sans contrat fixe, devaient retourner au foyer. Donc là, elle voulait de toute façon devenir écrivain. Donc là, elle s'est mise vraiment à reprendre ses souvenirs de jeunesse, d'où les cahiers de la guerre que tout le monde connaît maintenant, qui ont été publiés. Et elle a commencé à mythifier un peu sa vie. On ne peut pas le lui reprocher. Tous les grands écrivains ont fait ça.
C'est curieux, un écrivain. C'est une contradiction et aussi un non-sens. Écrire, c'est aussi ne pas parler. C'est se taire. C'est hurler sans bruit. C'est reposant, un écrivain. Souvent, ça écoute beaucoup. Ça ne parle pas beaucoup, parce que c'est impossible de parler à quelqu'un d'un livre qu'on a écrit, et surtout d'un livre qu'on est en train d'écrire. C'est impossible. C'est à l'opposé du cinéma, à l'opposé du théâtre et autres spectacles. C'est à l'opposé de toutes les lectures. C'est le plus difficile de tout. C'est le pire, parce qu'un livre, c'est l'inconnu, c'est la nuit. C'est clos, c'est ça. C'est le livre qui avance, qui grandit, qui avance dans les directions qu'on croyait avoir explorées, qui avance vers sa propre destinée et celle de son auteur, alors anéanti par sa publication, sa séparation d'avec lui, le livre rêvé, comme l'enfant dernier-né, toujours le plus aimé. Un livre ouvert, c'est aussi la nuit. Je ne sais pas pourquoi, Ces mots que je viens de dire me font pleurer. Écrire quand même malgré le désespoir. Non, avec le désespoir. Quel désespoir ? Je ne sais pas le nom de celui-là. Écrire à côté de ce qui précède l'écrit, c'est toujours le gâcher. Et il faut cependant accepter ça. Gâcher le ratage, c'est revenir vers un autre livre, vers un autre possible de ce même livre.
Quand elle m'a, pour ainsi dire, je ne sais pas comment dire, enrôlée, d'abord c'était, c'était très secourable de sa part parce que j'allais pas très bien, et donc, voire très mal, et donc en même temps, je ne sais même pas si elle a su ce qu'elle faisait à ce moment-là, mais c'était vraiment, c'était presque un sauvetage. Elle m'a dit, tu veux faire un livre ? Elle m'a dit, on va le faire très vite, ce livre.
Alors, tu veux faire un livre, ça veut dire quoi ? Elle l'écrire, vous absolument, l'aider ?
Absolument.
Vous faire quoi, d'ailleurs, Jérôme Beaujour ?
Eh bien, justement, je ne sais pas ce que j'ai fait. Comment dire ? Ça aurait été très différent si je n'avais pas été là, sûrement, d'ailleurs. Mais je n'ai pas écrit une ligne de ce livre, qui s'appelle « La vie matérielle ». Par contre, au début, je me souviens, on avait travaillé avec un magnétophone, donc je posais des questions. Et puis, elle en a eu marre. Elle n'aimait pas du tout les interviews. Elle détestait répondre aux questions. Et puis il y avait cette chose que Yann André habitait là à ce moment-là, et il le faisait pas parce qu'il était pas bien.
Donc vous avez joué le substitut de Yann André à ce moment-là.
Absolument, oui. Oui, j'étais son remplaçant, oui. J'écrivais à la main, sous la dictée, beaucoup. Et de temps en temps, c'était entièrement dicté, comme si je ne savais pas d'où sortait le texte, un texte aussi élaboré qu'elle retravaillait un peu après, mais pas beaucoup. C'est sidérant. Il y a plein de choses sidérantes, comme ça. Comme si quelqu'un avait une voix qui lui venait, comme ça. Voilà, c'était presque surnaturel.
Elle a inventé ça, ces jours-ci. Qu'elle venait à l'école sans manger, que vous étiez dans la misère, etc., etc. Elle a frappé une lèvre. Pourquoi ? Mais pour rien, pour une histoire de gomme qui avait disparu. Il y a toujours eu des bonnes, de mauvaises élèves. Nous sommes en terrain connu. Mais pour le reste, cette violence chez une très petite fille.
Elle a toujours dit que le cinéma à côté de la littérature, c'était pas grand-chose. Que quand elle faisait du cinéma, c'était pour le texte, pour les mots. Et ce qui ne veut pas dire qu'elle ne faisait aucun cas de l'image, parce qu'elle en faisait un cas. Et puis Bruno Nuiten, qui faisait l'image, en faisait le plus grand cas. Et elle était très, très contente des images.
Comment ça s'est passé, justement ? Vous étiez
sur les tournages ? J'étais sur Nathalie Granger, je me souviens. Ça, c'est Valérie Mascolo.
Il y a cette scène que je suis en train de chercher.
Je ne vous dérange pas ?
Non.
Gérard Depardieu.
Entrez.
Essaie de vendre une machine à laver.
Oui.
C'est ouvert.
Qu'est-ce que vous voulez ?
Oh. Rien. Je suis.
Asseyez-vous.
Je représente la marque Vendetta Tambour. On voit que ça partout, c'est modèle entièrement automatique, super automatique, si je peux m'exprimer ainsi, encombrement minimum. La 008 est à axes horizontaux portés sur deux paliers. Chose nouvelle, le lavage est à inversion automatique, ce qui augmente de 50%, et c'est logique, réfléchissez, l'efficacité de la machine. L'encombrement de la 008 est minimum 46, 81, 60.
C'est un film très étrange, hein, de toute façon, comme beaucoup de choses, vous me direz, mais cette histoire qui se tourne dans sa maison avec ses deux femmes, c'est l'histoire d'un fait divers qu'on entend, qui est deux jeunes gens qui s'étaient échappés, qui avaient tué, et donc...
Des enfants, un tueur d'enfants.
Qui n'avaient pas la majorité pénale, je me souviens. Et ils écoutent le transistor, et de temps en temps, on sent qu'ils doivent être pas très loin, et c'est censé... c'est pas censé, ça le fait, les gens se sentent légèrement menacés. Enfin, ce qui m'apparaît rétrospectivement, très loin, ma réflexion me porte à dire cette chose. C'est que c'est éloigné de tout réalisme. Et que, en fait, le cinéma, la plupart du temps, l'écrasante majorité du temps, à part les blockbusters et quelques films comme ça, et dont le maître est, pour ainsi dire, sautait, c'est réaliste, le cinéma. Mais elle, c'est pas réaliste du tout. C'est-à-dire, et en même temps,
la 008,
ce manque de réalisme absolu
mais la 008 comporte
crée du réel. Alors là, c'est presque du.
Au lieu de deux, si vous souvenez de la
007. Ça, c'est métaphysique.
La 007, c'est deux sélections.
Je lisais une citation de Maupassant qui était à peu près on n'est quand même pas assez bête pour croire au réalisme. De la bouche de Maupassant.
Alors c'est pas la fiction,
c'était,
oui.
C'était pas Lacan, hein, c'était Maupassant.
Une carte qui est donnée par la préfecture de police, je ne suis pas...
C'est très bizarre comme le réel est oublié.
Non. Dans les deux sens, d'ailleurs, pour Marguerite Duras, puisqu'on lui a assez reproché l'affaire du petit Grégory.
Non, c'est exactement
donc
ça.
Le problème s'est c'est posé dans ça. L'autre sens aussi.
C'est exactement ça. Et vraiment, comment dire, le procès qui lui a été fait, il y avait de quoi. Mais en même temps, elle parlait pas de la même chose. C'était sur un registre absolument différent. C'est-à-dire, c'était pas un registre, disons, médiatique, journalistique ou quelque chose comme ça. Ça n'avait rien à voir. Et en fait, cette chose-là parlait certainement de quelque chose. Comment se faisait-il que finalement, dans cette histoire, personne n'ait jamais su qui avait tué le petit Grégory? C'est quand même incroyable. Et elle parlait finalement de ça.
Écrire, ce n'est pas raconter des histoires. C'est le contraire de raconter des histoires. C'est raconter tout à la fois. C'est raconter une histoire et l'absence de cette histoire. C'est raconter une histoire qui en passe par son absence.
Je m'appelle Jean-Marc Turine et j'ai connu Marguerite Duras en 1971 sur le film « Jaune le soleil ». C'est Marguerite qui m'a appelé à Bruxelles en me disant « Je tourne dans 10 jours, 8 jours, je ne sais plus ». Si vous voulez venir comme stagiaire, je commence. Voilà. Mais je suis arrivé à Paris.
Alors, stagiaire, vous faisiez quoi, Jean-Marc Turine?
Stagiaire, c'est balayer le plancher. Mais il n'y avait pas de plancher à balayer, parce que c'est du carrelage, mais c'est pas ça. Mais c'est que ça a été très, très vite autre chose. Marguerite me prenait à témoin de tout, comme ça. Alors, moi, je débarquais, j'étais jeune, j'étais un môme, quoi. J'avais 25 ans et d'abord, elle m'impressionnait, d'une certaine façon. J'arrive là, elle se disputait tout le temps avec le père de son fils. Et alors, elle me demandait toujours de l'aider à écrire les dialogues qu'elle écrivait, comme ça, d'une certaine façon, d'une manière spontanée, parce que quand les comédiens trouvaient que c'était trop difficile. Bon. Et ça faisait des psychodrames jusqu'à les 3h du matin tous les jours. C'était une catastrophe, et en même temps un émerveillement, mais une catastrophe, parce que c'était dingue, quoi. C'est une relation, quelque chose de très très fort. Ben voilà, ça a continué jusqu'à sa mort, ou à peu près.
Jean-Marc Turine, on a le sentiment que d'un côté, dans les témoignages, on nous rapporte une Marguerite Duras un peu à ciel ouvert, qui ne cachait rien. Et de l'autre, il y a eu énormément de mystères, alors autour de, justement, de sa vie, qu'elle a écrite plusieurs fois de manière différente. Finalement, c'est un mélange de totale transparence et de grands mystères. Vous aviez l'impression de la saisir?
Oui, je pense que je la saisissais, oui. Je l'aimais beaucoup, cette femme. Ben, c'était ma seconde mère, d'une certaine façon. C'était ma seconde mère. Elle m'a ouvert à quelque chose de très grand, de très fort. De même que le père de son fils, Dionis Mascolo, à qui je dois énormément aussi. Je venais d'un milieu petit bourgeois, catho, jésuite de Bruxelles. Et je me retrouve à 25 ans avec deux personnalités comme ça. Et ça a été pour moi un émerveillement. Alors, est-ce que je l'ai bien connue? Peut-être. Il me semble. Enfin, je l'ai quand même beaucoup fréquenté. Quand je venais à Paris, je logeais quand même chez elle.
Pas loin. Et même
d'ici.
Encore.
Pas loin d'ici. Ici, toujours, je suis toujours chez elle, ici, oui. C'est un appartement qu'elle a acheté. Effectivement, ben, elle avait du pognon après le Goncourt et donc elle avait besoin de posséder des choses. Quand elle pouvait, oui, elle mettait l'argent dans les briques. C'était quelque chose qui la rassurait, je crois. Alors, avec sa vraie fausse histoire, ça, j'en sais rien, sur sa pauvreté ou pas, j'ai pas l'impression qu'elle était vraiment dans la misère, mais puisque sa mère a quand même pu acheter une grande propriété quand elle a quitté le Vietnam, enfin l'Indochine, pour venir ici. Donc la pauvreté, je sais pas où elle le situait, mais c'était son problème. C'était son problème d'une enfance comme ça, très, très marquée, mais peut-être aussi très marquée par des injustices sociales très fortes, c'est-à-dire le mépris des colons français à l'égard de ce peuple vietnamien, enfin, ou de toutes les colonies françaises où on méprisait les Africains, les Espagnols en Amérique latine. Enfin, bon. Et donc, elle a été sensible à ça. Et ça, je crois que c'est cette sensibilité-là qui c'est la chose la plus importante, peut-être, qu'elle a pu vivre et qu'elle a pu raconter. Le reste, je m'en fiche de savoir s'il était riche, pas riche, bon. Mais ça, c'était quelque chose d'inoubliable pour elle, c'est qu'elle a vécu l'injustice. C'est ce qui lui a permis, je pense aussi, d'être très proche des peuples algériens quand elle a milité contre la guerre en Algérie, contre la guerre au Maroc, etc. Et qu'elle a fait partie du Parti communiste quand même pendant quelques années. Et elle était militante, ultra militante. Elle vendait, je ne sais plus quel journal, elle vendait l'UMA et elle vendait aussi des cartes d'adhésion sur les marchés, ici à côté, à Bussy sans doute, ou ailleurs. Voilà. C'est ça que je retiens d'elle essentiellement.
Jean Vallier, vous avez remis de l'ordre dans les faits par un certain nombre de documents que vous avez trouvés.
Le piège dans lequel il ne fallait pas tomber, justement, c'est celui de revenir au texte de Marguerite Duras pour y trouver des éléments. Dans l'autofiction, dans la mythification, dans les fantasmes qu'elle a fait de certains épisodes de sa vie, il y a toujours, c'est ce qui est frappant quand on relit l'œuvre, un fond très profond de vérité.
De vérité, vous voulez dire une base réelle?
Une base réelle des données de la vie, une base réelle de ce qu'elle a vécu, de ce qu'elle a ressenti, de ses émotions, plus que des opinions ou des constructions littéraires. Toute son œuvre est imprégnée, elle était comme une éponge, si vous voulez. Elle est arrivée dans la fiction, en créant des personnages comme l'Olvestrein, Aldebaret, le Moderato. Si vous lisez le substrat, ce qui entoure tout ça, la prose poétique qui était ses romans, c'est sa vie qui est régurgité, mais pas dans le détail véridique, dans l'essentiel.
Et même avec travail et un souci de la transformation.
Bien sûr. Je n'ai jamais voulu dire « Ah, là, elle nous a trompés ». Non, au contraire. Anne-Marie Streeter, elle ne l'a jamais rencontrée. C'est une femme qu'elle n'a jamais rencontrée. Mais elle est arrivée elle-même à croire qu'elle l'avait rencontrée. Et pourquoi pas ?
Anne-Marie Streeter et l'Olvestein, je n'ai rien à voir avec elles. Rien. Ce sont des personnes qui ont leur vie, qui n'améliorent en rien la mienne, qui ne me font jamais rêver. Je ne rêve jamais à elles. Je tombe dans l'endroit où elles sont et je commence à écrire. Cet endroit est derrière moi quelque part, mais il ne m'aide jamais à vivre. C'est mon enfer à moi.
Ces personnages, Jérôme Beaujour, ils devenaient réels pour elle? L'Olvestein, le vice-consul,
absolument.
Ils avaient existé
évidemment,
ou ils se mettaient à exister?
Évidemment. Oui, sauf que la chose la plus étrange, c'est que tous ces gens qui étaient, comment on dit, des êtres de fiction, l'Olvestein, Anne-Marie Streeter, le vice-consul, les trois, ils ont une origine. Elle dit que finalement, le vice-consul, alors que c'est dans un entretien avec peut-être Dominique Neguet, je ne sais plus trop, elle dit, mais je l'ai très bien connu. Il habitait Neuilly, il s'appelait Freddy. C'était un juif de Neuilly. Et en fait, c'est lui qui m'a fait lire la Bible. Et donc, ce vice-consul, qui, à mon avis, ne ressemble pas le vice-consul de Lahore, en disgrâce à Calcutta, n'oublions pas.
Oui.
Je ne sais pas s'il a encore quelques traits communs avec Freddy, peut-être. Mais en tout cas, ça vient de là. Et je peux vous dire aussi, l'Olvestein, elle vient de quelque part. Elle le dit à un certain moment. Et puis elle fait, après, comme si elle n'avait jamais dit ce qu'elle a dit. C'est-à-dire que, en fait, c'est une folle, une schizophrène, dit-elle, qu'elle a été visitée et qu'on lui a donné un après-midi dans Paris pour aller se balader. Et je sais pas, elle devait connaître un psychiatre là-bas et le psychiatre lui a dit, ben, prenez-la pour aller la promener dans Paris.
Et donc Margaret Duras l'a prise avec elle pour l'emmener dans Paris.
Elle a passé un très bon après-midi. Sauf qu'elle n'en est jamais revenue de cette histoire parce que je peux pas vous dire, mais c'est très inaugural de quelque chose, un rapport au monde très décalé. C'est pas le même que dans les films de Claude Sautet. Ils n'installent pas le réalisme, les schizophrènes. Elle dit même, par exemple, des personnages quand même très largement principaux, Lolvestein et Anne-Marie Streiter. Elle dit, j'ai rien à faire avec elle, parfois je les trouve là, donc je me mets à écrire, mais j'en ai un peu marre de ces deux-là. Donc c'est un rapport très particulier. C'est pas de ces gens qui disent j'aime mes personnages c'est moi, les trucs comme ça. C'est un rapport complètement délirant.
Il y a beaucoup de fantômes, comme la mendiante qui n'existe que par le son dans India Song. Ouais. Il y a beaucoup de fantômes dans les films de Marguerite Duras.
Non, c'est entièrement hanté. Mais en fait, je crois que si un film n'est pas hanté ou si un livre
comme
n'est
toi,
pas hanté, il n'y a pas de livre, il n'y a pas de film.
Non, tu ne connais pas l'oubli.
Comme toi, je suis douée de mémoire. Je connais l'oubli.
Non, tu n'es pas douée de mémoire.
Comme toi, moi aussi, j'ai essayé de lutter de toutes mes forces contre l'oubli. Comme toi, j'ai oublié. J'ai désiré avoir une inconsolable mémoire, une mémoire d'ombre et de pierre. J'ai lutté pour mon compte, de toutes mes forces, chaque jour, contre l'horreur de ne plus comprendre du tout le pourquoi de ce souvenir. Comme toi, j'ai oublié.
Marguerite Duras a dit toute sa vie qu'elle appartenait à un milieu de paysans très pauvres, de métayers. C'était complètement faux, mais bon. Pourquoi pas? D'abord, quand elle a écrit ça, elle appartenait au Parti communiste, elle était du côté du prolétariat, c'était plus commode, disons, de faire partie des pauvres. Quand on dit dans les colonnes du New York Times qu'elle ne mangeait pas à sa faim, que la famille ne mangeait pas à sa faim, c'est ridicule.
Autoportrait, je ne comprends pas ce que ça veut dire. Non, je ne comprends pas. Comment voulez-vous que je me décrive? Il y a des portraits de moi, c'est les autres qui peuvent le faire. Autant de gens que je connais, autant de portraits de moi, ils sont tous valables. Mais moi, j'ai rien à dire sur moi. C'est pas en me demandant qui êtes-vous que je répondrai. Ou ce qui me fait écrire que je vous répondrai. Hein? Vous savez ça.
Qu'est-ce qu'on peut dire de l'écriture comme identité si la biographie n'est pas une source sûre, en tout cas pour elle, si les souvenirs sont flous, puisqu'il y a toujours ce travail de la mémoire et de l'oubli, qu'est-ce qu'on peut dire de l'écriture comme identité recréée, Sophie Bogart?
C'est vrai que c'est sans doute là qu'elle se définit le mieux. Enfin, d'ailleurs, elle a cette phrase dans C'est tout, ce recueil de propos consignés par Yann Andrea sur son lit de mort,
son
dernier livre et son dernier compagnon, en effet. Il lui demande à un moment, en tout cas c'est consigné comme tel, qui êtes-vous? Elle répond Marguerite Duras. Il lui dit qu'est-ce que c'est Marguerite Duras? Et elle répond c'est la littérature. En toute modestie, hein, on la reconnaît bien là. Mais effectivement, en effet, au-delà de l'hubris durassien, c'est vrai que c'est certainement par l'écriture qu'elle se définit le plus. Enfin, comme être écrivant avant d'être sentant, vivant, et même la relation amoureuse, elle est d'abord vécue à travers le filtre de l'écriture.
Très vite dans ma vie, il a été trop tard. À 18 ans, il était déjà trop tard. À 18 ans, j'ai vieilli. Ce vieillissement a été brutal. Ce vieillissement, je l'ai vu gagner mes traits un à un. Au contraire d'en être effrayée, j'ai vu s'opérer ce vieillissement de mon visage avec l'intérêt que j'aurais pris, par exemple, au déroulement d'une lecture. Ce visage-là, nouveau, je l'ai gardé. Il a gardé les mêmes contours, mais sa matière est détruite. J'ai un visage détruit. Que je vous dise encore, j'ai 15 ans et demi. C'est le passage d'un bac sur le Mékong.
Moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est sa façon de décrire l'écriture comme un état d'ouverture, un état effectivement de porosité. pas seulement de porosité à soi, à sa propre histoire, mais un état de porosité au monde. C'est en ça qu'on parle l'écrivain et le fou, en disant c'est celui à travers, enfin c'est pas littéral comme citation, mais à travers lequel le vent s'engouffre et le monde s'engouffre en fait. Hein, c'est un peu comme ce personnage, cette femme du camion, vous vous souvenez ce film avec Depardieu qui date de 77, où le personnage de la vieille dame est évidemment extrêmement proche de son personnage à elle, et puis c'est cette femme là qu'on trouve comme ça sur le bord de la route, on sait pas trop ce qu'elle fait là, elle-même sait pas où elle va, voilà, mais elle est traversée comme ça par le monde. On décrit souvent, et on a raison, Duras comme étant une des précurseurs de l'écriture de soi, enfin voilà, quelque chose de très intimiste, de très tourné vers l'intériorité, et c'est à la fois vrai et pas vrai, c'est-à-dire c'est une intimité quand même qui est trouée, qui est vraiment ouverte à tous les vents. Alors bien sûr, après, il y a le filtre de sa personnalité, c'est pas une simple consignation, c'est pas un registre du monde, mais c'est quand même cet état un peu de transe, en effet, qui fait que on est soi, mais on n'est plus vraiment soi.
C'était une route au bord de la mer. Elle aurait traversé un grand plateau. Oui. Et puis un camion s'est arrivé. Et il serait passé lentement à travers le paysage. Il y a un ciel blanc d'hiver. Une brume aussi, très légère, répandue partout. Sur les terres, sur la terre.
Comment dire, cette chose qu'elle fait tout le temps dans ses films, et en particulier qu'elle systématise, si on peut dire, du fait que jamais les gens ne parlent en direct. De toute façon, on peut essayer de désosser les choses. Tout reste très mystérieux, c'est-à-dire c'est pas gratuit, c'est ça ce que je veux. C'est pas du tout expérimental, au sens que c'est pas formaliste du tout. C'est toujours pour essayer d'aller trouver une signification là où on ne pourrait pas l'avoir autrement qu'en décalant le son de l'image. C'est pas des prouesses narratives, si on peut dire. Je vais vous raconter quelque chose. Quand je l'ai vue la première fois avec Claude Berry, elle a dit à Claude Berry, « Ça y est, Claude, ton film, je l'ai. » Et Claude Berry a dit, « Ben dis donc, ça a été vite. » Et elle a dit, « Ben oui, c'est très simple. Tu sais ce que tu vas faire? Tu vas me filmer moi en train de lire L'Amant. » Il a dit, « C'est génial. » Il a dit, c'est génial, mais je voyais son air un peu désemparé. Et après, il a rattrapé la chose en disant, mais à côté, on va peut-être faire un autre film. On en parlait en minimisant beaucoup l'autre film, où je pense qu'il y avait déjà des millions d'engagés. Et finalement, on a fait l'autre film. Mais il y a eu quand même, elle a été filmée, elle seule, en train de lire L'Amant. Avec, j'étais là, Claude Berry était là, pas toujours, mais souvent. Elle disait, t'as vu Claude? T'as vu Claude? J'ai changé dans le texte, elle disait, ah oui Marguerite, personne ne pouvait
s'en rendre compte.
Des années après la guerre, après les mariages, les enfants, les divorces, les livres, il était venu à Paris avec sa femme. Il lui avait téléphoné. Il était intimidé. Sa voix tremblait. Avec le tremblement, elle avait retrouvé l'accent de la Chine. Il savait qu'elle avait commencé à écrire des livres. Il avait aussi appris la mort du petit frère. Il avait été triste pour elle. Et puis, il n'avait plus su quoi lui dire. Et puis, il le lui avait dit. Il lui avait dit que c'était comme avant. qu'il l'aimait encore, qu'il ne pourrait jamais cesser de l'aimer, qu'il l'aimerait jusqu'à sa mort.
Il y a un côté sorcière un peu chez Duras, parce que c'est aussi l'écriture des sensations, c'est aussi une écriture très intuitive qui existe chez Duras, et on a l'impression que finalement l'écriture elle contient tout.
Oui, il y a ce côté chaudron, justement, pour reprendre la métaphore de la sorcière. Alors, on sait qu'elle était très attachée à ce mot de sorcière qu'elle a emprunté à Michelet, hein, et elle racontait souvent cette histoire racontée plus ou moins par Michelet dans La Sorcière, qui dit que les femmes au Moyen-Âge, si on les a taxées, si on a taxé beaucoup d'entre elles de sorcellerie, c'est parce qu'elles étaient tout le temps seules, parce que les hommes étaient tout le temps partis, soit à la chasse, soit à la guerre, enfin voilà, absents, et que du coup, eh bien, les femmes se mettaient à parler soit seules, soit avec les arbres, les animaux, voilà, à établir d'autres formes de communication, comme ça, un peu, en effet, même au-delà de l'intuition qui serait de de la magie, quoi. Donc, effectivement, il y a ça dans sa conception de l'écriture. Ouais.
Il est où le côté sorcière, Sophie Bogart, de Duras dans son écriture? Est-ce que c'est, par exemple, le rapport à l'eau, le Gange, la mare, l'étang de Noufle, ce rapport justement très matériel et spirituel, finalement, qu'on retrouve dans l'écriture?
Oui, oui, bah, vous la décrivez bien. C'est vrai que c'est assez étonnant ce qui peut apparaître comme une contradiction, mais elle a réussi à nouer ces deux choses-là, ces deux dimensions, c'est-à-dire une dimension en effet très matérielle et très concrète, presque triviale, qui a fait que elle est, enfin, ces deux dimensions la rendent très facile à pasticher ou à moquer, parce que effectivement, il y a la Duras, voilà, qui fait la cuisine, qui fait sa soupe aux poireaux. Quand même, il y a cette recette de soupe aux poireaux et cette description d'elle en train de faire la soupe pour les hommes qui sont absents, qui vont revenir. Et ça se termine quand même cette histoire de recette de soupe aux poireaux sur le mot suicide. Donc, en effet, la matérialité la plus triviale, la plus quotidienne, débouche sur autre chose. Et donc, dans cette deuxième dimension, il y a ce côté pitié, hein, qu'on a aussi souvent moqué chez elle, c'est-à-dire une façon de voir à travers les choses.
Je n'avais pas besoin de vous inviter à danser pour vous connaître. Et vous le savez.
Je le sais.
Il est tout à fait inutile qu'on aille plus loin, vous et moi. Nous n'avons rien à nous dire. Nous sommes les mêmes.
Je crois ce que vous venez de dire.
Les histoires d'amour, vous les vivez avec d'autres. Nous n'avons pas besoin de ça. Je voulais connaître l'odeur de vos cheveux. C'est ce qui vous explique que je...
Sophie Bogart, l'écriture de Duras, elle l'a exportée sur divers supports, dans divers domaines. Il y a eu l'écriture littéraire, l'écriture théâtrale, l'écriture cinématographique et l'écriture journalistique, en tout cas d'une certaine manière. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette écriture nomade ?
Effectivement, elle appréhende le monde et elle s'appréhende elle-même principalement à travers l'écriture. Donc du coup, où qu'elle aille, elle écrit d'une certaine façon, et quel que soit le type d'écriture qu'elle pratique, ça reste de l'écriture pour elle, voilà, donc ça reste son filtre principal et majeur. Et puis il y a aussi, je pense, le fait que c'est quelqu'un qui à la fois était très solitaire et qui souffrait beaucoup de la solitude. Et du coup, elle a souvent dit et écrit que le cinéma ou le théâtre, c'était l'accession enfin à une activité collective, une création collective. Donc elle, quand elle travaillait avec Madeleine Renaud par exemple au théâtre, elle disait beaucoup, avec Bulogier, elle disait beaucoup que c'était absolument fantastique de percevoir son texte écrit comme un texte incomplet et qui ne devenait complet qu'à partir du moment où il était incarné sur une scène, donc avec l'aide et le corps des autres aussi. Et le cinéma, c'était aussi une espèce de grande aventure collective et de grande bande comme ça, et de vie un peu de colonie de vacances à Naufle, et je pense que ça, c'était très important, avec des gens souvent qui étaient plus jeunes qu'elle à ce moment-là et qu'elle avait besoin de ce souffle et de ce mouvement.
C'est dans une maison qu'on est seul, et pas au dehors d'elle, mais au dedans d'elle. Dans le parc, il y a des oiseaux, des chats, mais aussi une fois, un écureuil, un furet. On n'est pas seul dans un parc. Mais dans la maison, on est si seul qu'on en est égaré quelquefois. C'est maintenant que je sais y être resté 10 ans, seul. Et pour écrire des livres qui m'ont fait savoir, à moi et aux autres, que j'étais l'écrivain que je suis. Comment est-ce que ça s'est passé? Et comment peut-on le dire? Ce que je peux dire, c'est que la sorte de solitude de Noufle a été faite par moi, pour moi. Et que c'est seulement dans cette maison que je suis seule, pour écrire. Pour écrire pas comme je l'avais fait jusque-là, mais écrire des livres encore inconnus de moi, et jamais encore décidés par moi, et jamais décidés par personne.
En fait, quand on vivait auprès d'elle, si on peut dire, c'est que les gens étaient attirés comme s'ils n'avaient pas de vie à eux et qu'elle créait une vie pour eux. On devenait comme des personnages de son univers. C'est vrai. Et donc, on trouvait un emploi. Elle trouvait des emplois pour les gens. Elle m'a trouvé un emploi. Je savais pas quoi faire à ce moment-là. Vraiment pas du tout quoi faire. C'est-à-dire quoi faire de sa vie. Elle était très, très bonne pour... parce qu'elle ne savait pas du tout ce qu'on faisait de sa vie. Elle n'avait aucune idée de cette chose. Elle disait, bon, ben, finalement, j'écris parce qu'il faut bien faire quelque chose de sa vie, c'est une occupation du temps. Donc, pour occuper le temps, qui était quand même assez ritualisé, hein, il faut dire la vérité, c'est-à-dire qu'il y avait, ça ne se passait pas n'importe comment. Hein. C'est-à-dire que, quand je vous parle des promenades qu'on faisait en bagnole, en voiture, pour ainsi dire, il y avait 3 circuits, pas plus. On allait beaucoup, beaucoup... dans la banlieue sud, c'est-à-dire Malakoff, Montrouge, Vanves. Pourquoi? Je ne peux pas vous dire. Elle trouvait ça particulièrement bien. Malakoff, Montrouge. Et puis, il y avait une autre, c'est, elle aimait beaucoup prendre les quais de la Seine, sur les quais, les voies sur berge, rive gauche. Et à chaque fois, elle disait, regarde, c'était très, très, très répétitif, regarde comme c'est beau, la verrière du Grand Palais, par exemple.
De l'effet qu'elle a pu avoir sur les autres, qu'elle ne laissait pas indifférent, qu'elle a pu aussi énormément énerver, agacer.
Bien sûr.
Jean-Marc Twain.
C'est des proches, il dit que Duras n'a pas écrit que des conneries, il en a aussi filmé. Donc, bon. C'était quelqu'un qui, effectivement, était assez tranchante ou tranchée dans ses avis, et avec quand même, pour moi, personnellement, une tristesse, c'est qu'après le prix Goncourt, elle s'est quand même prise très, très, très au sérieux. Un peu trop. Et qu'elle a eu tellement de fric qu'elle en a été débordée. Et que donc elle a joué, la poussée par Yann Andrea, elle a joué la carte de comment on appelle ça, par image, quoi. Et donc elle se laissait aller comme ça. Et ce qui est fou, c'est qu'on l'a... On la cherchait là-dedans, les directions de journaux, parce qu'elle amenait du fric et des lecteurs. Et ça, c'est elle est entrée dans une espèce de folie des grandeurs après avoir eu ce prix. Et je pense le fric aussi.
Elle était contente d'avoir les honneurs aussi, quand même, d'être reconnue.
Bien sûr, quand elle a eu le concours, elle était très contente. Je l'ai eu au téléphone, elle m'a dit « j'aurais pu me donner une Nobel ». Mais bon, ça fait partie aussi de son personnage, ça.
Jean Vallier, est-ce qu'il y a quand même des éléments d'une mythologie personnelle qu'elle a un peu orchestrée, des choses que vous avez pu identifier,
comme des
reconstructions choisies?
Toute la pseudo-autobiographie, toute l'autofiction, toute la fiction de Marguerite Duras repose sur des gens qu'elle a connus, dont elle a entendu parler, qu'elle a croisés, sur des chocs émotionnels ou des événements familiaux. Alors, les deux premiers romans, Les Impudents et La Vie tranquille, c'est carrément la retranscription des drames de la famille, avec le frère un petit peu à la dérive.
La passion de la mère pour le frère.
La passion de la mère pour le frère, non prouvée, parce que là aussi, elle a interprété. À partir des petits chevaux de Tarquinia, là, elle a commencé à observer les gens de son groupe en vacances sur les bords de la Méditerranée, et elle a commencé là, à puiser dans son fond plus personnel, dans son expérience sentimentale, émotionnelle de femme amoureuse, de femme trompée, de femme enfin, de tous ces états, si vous voulez. Parce que l'amour était au centre de tout ça. Son idée de l'amour, 10h30 du soir en été, c'était à nouveau son conflit, la séparation programmée avec Mascolo, qui flirtait à droite et à gauche. Tout ça, c'était vécu et revécu en version romanesque. Alors, à partir de là, toute son expérience personnelle était réassimilée, réinventée par le biais du style, par le biais de l'écriture, dans les romans.
Quand un livre est fini, un livre qu'on a écrit, j'entends, on ne peut plus dire en le lisant que ce livre-là, c'est un livre que vous avez écrit. Ni quelles choses y ont été écrites. Ni dans quel désespoir ou dans quel bonheur, celui d'une trouvaille ou bien d'une faillite de tout votre être. Parce que, à la fin, dans un livre, rien de pareil ne peut se voir. L'écriture est uniforme en quelque sorte à s'agit. Rien n'arrive plus dans un tel livre, terminé et distribué. Et il rejoint l'innocence indéchiffrable de sa venue au monde. Être seul avec le livre non encore écrit, c'est être encore dans le premier sommeil de l'humanité. C'est ça. C'est aussi être seul avec l'écriture encore en friche. C'est essayer de ne pas en mourir.
Il y a des lecteurs qui sont totalement fanatisés, c'est-à-dire qui vouent une sorte de culte. C'est comme une sorte de secte, en fait, un peu étrange, comme ça. De gens qui vivent mieux avec Marguerite Duras que s'il n'y avait pas Marguerite Duras. S'il n'y avait pas Marguerite Duras, la vie serait très, très difficile pour eux. Elle a ouvert quelque chose sans lequel c'est très difficile de vivre. Et une journée avec la musique d'India Song, on commence mieux sa journée que sans.
C'est une large coulée jaune entre la forêt et les rizières. À ce moment-là, les chaloupes étaient lentes. Il fallait plusieurs jours. Dès la tombée du jour, les moustiques, on ne voyait plus rien. Des grappes de moustiques se collaient aux moustiquaires.
Il écrivait, l'ambassadeur.
À la saison des pluies,
il aurait découragé.
On ne voit plus les rives du fleuve.
Le ciel est si bas.
Une vie, une œuvre, Marguerite Duras, La vie, matériau d'écriture, Maïlys Bessery, Anna Smuk. Avec Sophie Bogart, Jérôme Beaujour, Jean-Marc Turine et Jean Vallier. Archives des grands entretiens de Marguerite Duras avec Bernard Pivot du 28 septembre 1984 et du ravissement de la parole. Extrait d'Écrire et de la vie matérielle lu par Christelle Sevcou. Extrait des films India Song, Nathalie Granger, Hiroshima mon amour, L'amant et le camion. Coordination Christine Bernard. Attachée d'émission Pascaline Bonnet. Prise de son Fabien Gosset, Andréa Jaffre et Jean-Michel Bernot. Mixage Claude Niort.
Vous pouvez réécouter ou télécharger cette émission sur le site de France Culture, un site préparé, enrichi avec amour par Daphné Abgral, Suzanne Saint-Cast et Lucie Rebière. Tout de suite à 16h, nous retrouvons Étienne Klein et la conversation scientifique.